presidents can't inflame insurrection in their final weeks and then walk away like nothing happened. And yet that is the rule that President Trump asks you to adopt.
Donc, ce que l'avocat là, dans le tribunal qui est devenu le Sénat, Raphaël, vient de dire, c'est, écoutez, le président, il ne peut pas juste inciter à l'insurrection, puis après ça, dire, ah, moi, je m'en vais, puis je ne suis plus responsable de rien.
Exact. Alors que c'est essentiellement l'argument qui est présenté par l'équipe d'avocats de Donald Trump, l'ex-président. Donc, aujourd'hui, on avait le début de son deuxième procès en destitution. On le précise d'emblée, on s'attend à ce que ça dure à peu près une semaine. Donc, on essaie d'expédier ça le plus rapidement possible. Et ce qui était fascinant, Patrick, aujourd'hui, c'est qu'on a eu, en fait, l'argument central de l'équipe Trump, c'est-à-dire que c'est inconstitutionnel, d'aller de l'avant avec un procès en destitution contre un président qui n'est plus en fonction, cet argument-là qui a été pris de front par les démocrates. Donc, je pense qu'on s'attendait largement à ce que les démocrates aillent davantage sur le terrain de ce qui s'est passé le 6 janvier, avant le 6 janvier, ce que Donald Trump a provoqué comme émeute, comme insurrection, etc. Mais ça, ce qu'on voit là, après une journée de procès, c'est qu'on garde ça pour plus tard. Aujourd'hui, on a cherché proactivement du côté démocrate à venir démonter proactivement d'emblée le seul argument, en fait, qui semble être offert par le camp Trump, c'est-à-dire l'inconstitutionnalité de la chose, de l'exercice. Et là-dessus, il y a deux arguments que je retiens, que j'ai trouvé hyper intéressants de l'équipe démocrate. Le premier, c'est le suivant. C'est que la Chambre des représentants a seule, à elle seule, la responsabilité de mettre en accusation un politicien, un élu, dans ce cas-ci, un président. Et le Sénat, après coup, a seul la responsabilité de tenir un procès sur là où les mises en accusation qui ont été passées par la Chambre. Et il n'y a pas d'exception qui est énoncée dans la Constitution pour la mise en accusation de quelqu'un qui n'est plus en fonction. Autrement dit, c'est au Sénat de traiter toutes les mises en accusation. Les circonstances n'ont pas d'importance. Sinon, ça serait précisé dans la Constitution, ce qui n'est pas le cas. Deuxième argument qui était vraiment intéressant, qui est encore plus simple, c'est que retirer quelqu'un de ses fonctions, c'est pas l'unique fin d'une condamnation. Autrement dit, tu peux voter comme sénateur pour condamner quelqu'un qui est accusé sans que le seul but ce soit de le destituer.
Pas sûr de suivre.
Ben, c'est que la condamnation a plusieurs sanctions possibles, incluant le fait de perdre tes fonctions, par exemple, quand tu es président. Mais c'est pas la seule. On en a parlé à l'émission à quelques reprises. Une autre sanction, c'est, par exemple, de te faire barrer à jamais d'un retour en politique.
OK, on pourrait déterminer que la peine, c'est A, B ou C, mettons.
C'est ça l'argument qui est présenté par les démocrates aujourd'hui, qui avait jamais vraiment été présenté de la sorte. Fait que c'était vraiment intéressant. Et suite à ça, tu as eu la défense, je sais même pas si on peut l'appeler comme ça, parce que c'était tellement n'importe quoi. L'avocat principal de Trump a parlé pendant presque une heure. Puis honnêtement, là, je l'ai écouté du début à la fin. Même après presque une heure, j'aurais eu de la misère à dire c'était quoi son argument central, autre que c'est inconstitutionnel d'aller de l'avant avec le procès. Et même cet argument-là était même pas fait de façon claire. Mais au final, disons-le très clairement, peu importe la qualité de l'argumentaire et la qualité de la présentation, c'est pas un tribunal comme les autres, c'est pas un procès comme les autres, c'est un procès qui est politique. Et on risque d'avoir un verdict qui va être presque entièrement partisan. Et d'ailleurs, je te cite ce qui vient de se produire dans la dernière heure. Le Sénat a tenu un vote suite aux présentations d'aujourd'hui, à savoir justement si c'était constitutionnel d'aller de l'avant avec le procès. Tu te rappelleras qu'il y a eu un vote protocolaire qui avait été tenu très semblable à ça il y a quelques semaines. On a eu presque exactement le même résultat aujourd'hui, 56 à 44. Donc, 56 sénateurs qui votent pour dire que c'est constitutionnel, 44 qui affirment le contraire. Je te laisse deviner que c'est 100% des démocrates présents qui ont voté pour affirmer que c'était constitutionnel, 85% des républicains qui ont voté en sens inverse. Donc, au final, le verdict sur la culpabilité de Trump risque d'être largement dans les mêmes eaux. Donc, encore une fois, un procès qui va être intéressant.
Il y a quand même six républicains qui ont voté pour dire que c'est constitutionnel de le faire. Même ça, c'est surprenant. Je suis surpris qu'il y en ait autant.
T'as raison. Et ce n'est pas rien. Et non seulement ce n'est pas rien, mais en fait, c'est un de plus que ce qu'on avait eu il y a quelques semaines lorsqu'il y avait eu le premier vote protocolaire. Maintenant, Je pense qu'il y a deux choses à dire là-dessus. La première, c'est que, on le rappelle, ça prend non pas ce qu'on appelle une simple majorité, mais une super majorité. Les deux tiers des sénateurs pour condamner un président, ce que c'est un ex-président. Fait que tu sois 55 ou 56, il t'en manque quand même pas mal pour arriver au 67, au seuil des 67, évidemment, qui représentent les deux tiers. Donc, écoute, non seulement on n'a pas eu les deux tiers pour ceci, on risque vraiment pas de les avoir non plus pour la culpabilité.
Regarde, ça c'est assez clair là, qu'ils ne se rendront pas à 67 sénateurs. Là. Mais penses-tu que les sénateurs républicains qui vont voter contre l'impeachment, penses-tu qu'ils le font parce qu'ils pensent en leur âme et conscience que Trump n'a rien fait de mal ou ils ne veulent pas antagoniser, provoquer leurs électeurs qui sont très, très pro-Trump?
Ben écoute, poser la question, en ce qui me concerne, ça revient un petit peu à y répondre. C'est que les et ça en fait, ça répond aussi à une autre question que bien des gens se demandent, c'est-à-dire pourquoi avoir ce procès-là en premier lieu si on sait que la condamnation va échouer. C'est que les démocrates ont une espèce de but politique aussi là-dedans, c'est-à-dire de coincer les sénateurs républicains qui, d'un côté, évidemment, pour la grande majorité d'entre eux, ne peuvent pas endosser moralement, personnellement, ce qui s'est produit. Mais de l'autre côté, ils veulent pas se mettre les électeurs de Trump à dos. Et là-dessus, écoute bien ceci. Sondage qui est sorti aujourd'hui, dans les dernières heures, de CBS, qui est hyper révélateur à cet égard-là. Le sondage en question montre que c'est quand même une assez nette majorité. Là, à peu près 60% de tous les électeurs américains qui sont pour la condamnation de Trump. Okay? En même temps, tu limites ça à l'électorat républicain, l'électorat Trump, c'est 70% qui non seulement est contre, mais affirme que selon eux, ce serait un acte de manque de loyauté de voter pour condamner Donald Trump. Donc, t'es un sénateur républicain, t'es coincé là-dedans. Et pour les démocrates qui sont majoritaires, la beauté, si on veut, de l'exercice, c'est que même si on n'arrive pas à faire condamner Trump, on va peut-être coincer au passage des sénateurs républicains qui vont faire des mécontents peu importe de quel bord ils vont là-dedans. Puis, je t'ajoute ceci rapidement avant qu'on se laisse pour ce soir. Si Trump reçoit, que ce soit 55, 56 votes au final de culpabilité, il sera peut-être pas destitué, il sera peut-être pas condamné, mais il va devenir le premier président de l'histoire, de toute l'histoire américaine, à recevoir autant de votes de culpabilité contre lui. Ça, c'est quand même pas rien. Ça va créer une tache drôlement indélébile dans les livres d'histoire, là.
Mais Raphaël, tu sais, t'as parlé d'un procès où dont la politique sera pas absente, là, je comprends. Mais t'as quand même un président qui est allé dire à une foule extrêmement explosive, « Hey, on va aller les voir, pis on va leur dire notre façon de penser, puis si vous faites pas ça, là, vous allez vous faire voler votre pays. » Il est arrivé que 5 personnes sont mortes, puis il voulait pendre le vice-président.
Exact.
Je veux dire, tu peux pas laisser ça sans réponse.
Non, tu peux pas laisser ça sans réponse, puis... Je veux qu'on se garde plus de temps demain pour se parler d'une des choses qui a été présentée aujourd'hui, qui est, écoute, c'est sidérant le voir. C'est une vidéo de 13 minutes qui a été préparée et présentée par les procureurs démocrates, un résumé de la journée du 6 janvier. Puis tu vois tellement là, le lien de cause à effet entre ce que le président a fait et carrément la mort, les morts multiples d'êtres humains ce jour-là. C'est vraiment sidérant. Et non, effectivement, il y a un argument moral qui va bien au-delà du politique, selon lequel on peut juste pas cautionner ça en ne faisant rien.
Merci, à demain.
À demain.